Europe 1.
Le journal de 6 heures, préparé et présenté par Roman Hoquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. C'est une révolution qui pourrait bien changer le quotidien de 347 000 Français. Autant de malades du cancer sous chimiothérapie, un traitement par intraveineuse, lourd, contraignant, qui nécessite un passage par l'hôpital. Enfin, peut-être plus pour longtemps. Une étude ouvre la voie à une chimiothérapie sous-cutanée, moins invasive. Ces chercheurs sont français et américains, encadrés par le CNRS. Une étape majeure dans la prise en charge des patients à domicile. Yasmina Katou.
S'injecter une chimiothérapie comme un diabétique s'injecterait de l'insuline sans avoir un petit boîtier implanté sous la peau relié en permanence à une veine. Pour cela, les scientifiques ont modifié un principe actif pour lui permettre de passer dans le sang sans stagner sous la peau. Julien Nicolas, directeur de recherche au CNRS et responsable de l'étude.
On a modifié en fait ce principe actif, on l'a accroché à une chaîne de polymères. Donc un polymère, c'est une macromolécule. Ce conjugué, principe actif polymère, va être soluble dans l'eau, va migrer du tissu sous-cutané vers la circulation sanguine, comme pour une chimiothérapie classique injectée par voie intraveineuse, mais nous, on sera passé par la voie sous-cutanée.
Cette découverte faciliterait l'accès à la chimiothérapie et améliorerait le confort des patients.
Le geste est simple, exécuté, il n'y a pas besoin de personnel qualifié ni d'infrastructure spécialisée, il n'y a pas besoin a priori d'hospitalisation. Laisser les patients chez eux leur permettre de recevoir leur traitement à domicile par une simple injection sous-cutanée, par une infirmière par exemple, ça pourrait être un gros progrès.
Julien Nicolas et d'autres chercheurs espèrent récolter 2,5 millions d'euros pour commencer les essais cliniques d'ici 2 ans.
Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1.
C'est une information qu'Europe 1 vous révélait dès hier. L'interpellation de 6 femmes proches de la famille de Mohamed Merah, le terroriste de Toulouse et Montauban.
Oui, ces femmes sont soupçonnées d'être parties en Syrie avec leurs enfants entre 2013 et 2014. Un coup de filet plus de 10 ans après ces attentats. Alors que reste-t-il de la galaxie Merah? Les informations de William Moligny.
L'affaire Merah commence en réalité au milieu des années 2000. L'Albigeois Thomas Barnoin ou encore le Toulousain Sabri Essid, originaire de la cité des Isards, recrute à l'époque des jeunes pour les envoyer en Irak. De cette nébuleuse toulousaine, beaucoup sont morts, emprisonnés en Syrie ou derrière les barreaux en France, mais restent les femmes rarement inquiétées, car longtemps considérées comme des seconds rôles dans les enquêtes antiterroristes. Alors il est vrai, elles n'ont pas participé directement au passage à l'acte de Mohamed Merah, mais les deux procès qui ont vu son frère Abdelkader Merah condamné à 30 ans de prison, dont 2/3 de sûreté, ont démontré qu'elles ont fait prospérer un islam radical au sein du clan. Selon nos informations, ces 6 femmes se sont montrées aguerries lors des filatures des enquêteurs, particulièrement vigilantes dans leurs déplacements et précautionneuses au téléphone, comme si 10 ans après l'affaire Merah, elles tentaient toujours de rester sous les radars.
William Moligny, le démantèlement des cellules terroristes, justement, c'est le scénario du film Novembre qui sort aujourd'hui en salle à l'affiche. Jean Dujardin, qui était l'invité d'Europe 1 d'ailleurs hier, Anaïs Demoustier et Sandrine Kimberlin.
Le cinéma français qui apporte aussi son soutien aux femmes iraniennes, des réalisateurs, des acteurs, 1 millier de personnalités a signé une tribune, un appel intitulé « Femmes, vie, liberté ». C'est un hommage au slogan des manifestantes.
Oui, au moins 92 morts d'après une ONG iranienne en exil. Parmi ces victimes, des femmes, bien sûr, cibles de la répression brutale de Téhéran, Hadis, Anané, Ghazaleh. Certaines sont devenues les symboles de cette mobilisation. Chloé Lagadou.
Cette voix, c'est celle de Nika Shakarami, une adolescente de 17 ans. Disparue au cours d'une manifestation il y a 10 jours, les forces de sécurité iraniennes viennent de rendre son cadavre à ses parents avec le nez et le crâne fracturés. Et ce n'est pas la seule. Plusieurs dizaines de femmes abattues devenues les visages de la revendication et donc les premières cibles du régime, explique Thierry Coville, chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Je crois que c'est jamais arrivé en Iran. Les femmes sont en tête et là, ils font face à un mouvement qui n'a pas de leader. Donc c'est vrai qu'on peut l'avoir l'impression d'une répression tous azimuts parce que à mon avis c'est un mouvement qui est difficile à contrôler pour eux parce qu'il éclate partout. On a effectivement des tirs à balles réelles, donc l'idée c'est de réprimer et de mettre fin à ce mouvement le plus rapidement possible.
Une répression qui n'empêche pas les adolescentes aux cheveux découverts dans les collèges et lycées de continuer à lutter pour la liberté.
Le récit de Chloé Lagadou. A noté que l'Union européenne a annoncé hier l'examen de sanctions contre Téhéran. 6h04 sur Europe 1, des avancées puissantes dans le sud de l'Ukraine. Message de Volodymyr Zelensky publié hier soir sur les réseaux sociaux. Selon le président ukrainien, l'armée aurait repris une dizaine de localités.
Voilà, Volodymyr Zelensky en a aussi profité pour remercier les États-Unis puisque Washington va envoyer 625 millions de dollars d'aide supplémentaire.
Et la guerre, la crise de l'énergie aussi qui plombe le secteur de la construction jusque chez nous, en France. Batimat, c'est le nom du salon organisé jusqu'à demain, porte de Versailles à Paris. La grand-messe des professionnels est de retour après 2 ans d'absence. Des retrouvailles toutefois gâchées par la hausse des prix des matériaux. Dans les allées du salon, Clément Barguin et son micro Europe 1.
Il y a encore quelques mois, s'approvisionner en matériaux de construction comme le bois ou le métal était un casse-tête pour Valentina Angioletti, responsable commerciale chez Diazen, un fabricant d'enduits isolants.
Ça va un peu mieux. On a la possibilité d'avoir des matières premières dans les temps utiles et on arrive à fabriquer plus rapidement par rapport au mois précédent.
Des matières premières plus facilement accessibles mais dont les prix augmentent très fortement. Guillaume Picot, spécialiste de l'isolation thermique, subit de plein fouet la hausse des coûts de l'énergie.
Nos produits passent dans un four qui fait 60 mètres de long et qui est chauffé au gaz, donc quand le prix du kilowattheure est multiplié par 20 ou 30, c'est des augmentations à 300-400%, donc c'est vraiment très très important.
Une flambée des prix que de nombreuses entreprises sont obligées de répercuter sur les particuliers. Camille Pennel est chef de projet chez Hirsch Isolation.
Il y aura une hausse en début d'année pour couvrir les augmentations de matières premières, c'est certain. Sûrement dans la flotte 10-15%. L'idée, c'est pas d'être décorrélé du marché, mais c'est de pouvoir survivre et quand même gagner notre vie.
Les professionnels du bâtiment s'inquiètent pour leur carnet de commandes. C'est le curieux paradoxe. Les produits enfin disponibles risquent d'être trop chers pour les clients.
Le reportage de Clément Barguin. 6h06 sur Europe 1, votre actualité sportive. Et c'est ce qui s'appelle avoir le sens du timing. Après les stades de football climatisés du Qatar, voici les Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite. Oui, on parle bien de compétition de ski, hockey sur glace et patinage en plein désert pour 2029. Un choix validé hier et à l'unanimité par le Conseil Olympique d'Asie.
Une compétition d'hiver qui va donc se dérouler dans une ville d'Arabie Saoudite qui sortira de terre, enfin de sable hein, pour l'occasion. On va en reparler dans quelques minutes avec Johan Tritz. Rendez-vous sur Europe 1 pour le pressing juste après votre journal, Roman.
L'actualité du sport, c'est aussi la victoire renversante de l'OM en Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille s'est imposé 4-1 face au Sporting Portugal hier soir. De quoi relancer la course à la qualification et pourtant, c'était loin d'être gagné. Jean-François Pérez.
D'abord cette petite musique de la Ligue des Champions qui résonne dans ce vélodrome à huis clos avec des Portugais arrivés en retard pour le coup d'envoi mais qui ouvrent le score d'entrée. L'OM boit la tasse et puis Sanchez, le Chilien qui sonne la révolte en contrant le gardien adverse. Harit, superbe de la tête sur un centre de Klos, ce même gardien du Sporting qui prend un rouge, improbable pour une faute de main hors de sa surface. Dans la foulée, Balerdi, le défenseur maudit de l'OM qui marque de la tête à 11 contre 10 et Bemba qui clôt le score de ce 4-1, la plus large victoire marseillaise depuis des lustres en Ligue des Champions. C'était un match fou et le gardien espagnol de l'OM, Paulo Lopez, a apprécié.
Les 3 points sont très importants pour nous. Content pour l'équipe. Aujourd'hui, c'est un peu bizarre. Sans le public, je pense qu'ils sont contents à la maison.
Cet OM déconcertant, qui n'avait plus marqué de but dans le jeu depuis 10 ans, dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, se relance donc face au leader du groupe, le soir où on s'y attendait le moins. Match retour à 11 contre 11 et dans un stade plein dès mardi prochain à Lisbonne pour confirmer cette spectaculaire renaissance.
Jean-François Pérez du service des sports d'Europe 1 qui vous donne rendez-vous ce soir 20h-23h autour de Virginie Fulpin pour suivre Benfica PSG, phase de groupe de la Ligue des Champions toujours, qui doit départager les 2 leaders du groupe H.
C'était le journal des sports avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
C'était le journal de 6h sur Europe 1. Merci Romain Oquet.